Bien, c'est parti. Alors, pour commencer, peut-être que vous pouvez vous présenter tout simplement votre nom, votre âge, ce que vous faites.
Alors Armand Honorat, j'ai 60 ans, je suis né à Villeurbanne, dans le quartier des Charpennes. J'ai grandi aux Charpennes jusqu'à l'âge de 20 ans, j'ai quitté Villeurbanne. J'ai fait des études dans le domaine du paysage et j'ai travaillé un petit peu dans le privé avant d'attaquer ma carrière. En 1981, à la mairie d'Oullins, où je suis resté 23 ans, où j'ai fini agent de maîtrise et responsable du service parc et jardin, avant d'être recruté par Villeurbanne en 2004 pour prendre la direction du parc de la Fessine et monter le service du patrimoine arboré qui n'existait pas.
D'accord. Donc tu vous êtes toujours été dans la région. Un Villeurbanne de.
Alors j'ai toujours été dans la région, je suis né à Villeurbanne, ma mère était née à Villeurbanne, je suis né rue Collin. Ma mère était née rue Collin, ma mère allait à l'école rue Descartes, mes frères, ma sœur sont allés à l'école rue Descartes. J'ai inauguré le collège Jean Massé en septembre, en
Ah oui.
octobre exactement, 68, parce qu'il n'avait pas pu être terminé en septembre. J'ai quitté Villeurbanne à 20 ans, sans regret. Pour voir d'autres choses, mais je suis toujours resté dans la région Rhône-Alpes. Je suis revenu avec plaisir à Villeurbanne en 2004. Je quitterai sans regret Villeurbanne dans quelques jours. Je n'ai pas suivi, je n'ai pas été en corrélation avec l'évolution que la ville a pris.
Ouais. Donc vous êtes arrivé en 2004
Oui.
à la mairie de Villeurbanne. Donc le parc existait déjà.
Le parc existait déjà, il a été fini en 2002. Donc j'ai monté, on va dire, le plan de gestion du parc. J'ai mis en place l'équipe. L'équipe était déjà là, mais il a fallu se mettre en place et travailler ensemble et travailler surtout pour le parc.
Parce que c'était quoi en fait avant ce parc?
Oh, il y a une histoire assez longue. Alors, quand j'étais petit, on appelait ça le Grand Camp. Enfin, ma grand-mère appelait ça le Grand Camp parce que c'était l'endroit où les militaires venaient s'entraîner à une époque que ma grand-mère n'avait peut-être même pas connue, mais le nom était resté le Grand Camp. Et puis, dans les années 50, 60, s'est construit l'INSA, l'hippodrome a déménagé parce qu'on avait aussi l'hippodrome pour que ça devienne donc la fac et l'INSA, tout ça, enfin les universités. Et ici, sur le domaine du parc, une grosse partie, même la plus grande partie, était devenue la station de pompage des eaux du Rhône. Enfin, pas des eaux du Rhône, des eaux pour la ville de Lyon, c'est dans la nappe phréatique. Et puis jusqu'en 76, si ma mémoire est bonne, où ça a été abandonné. Et là, c'est resté un petit peu ben, l'abandon, une friche, une zone périurbaine laissée un petit peu à sa liberté, jusque dans les années, un peu avant les années 2000, où la municipalité a vu une potentialité sur ce lieu. Voilà. Et le maire actuel, Jean-Paul Brette, donc, a fait en sorte que ça devienne un parc naturel urbain.
Et vous avez des souvenirs, vous, étant enfant de ce.
Non, c'était pas un lieu où on venait. On allait à l'hippodrome, on allait au parc de la Tête d'Or. Même à l'époque, étant enfant, je suis né en 57, donc le Tonkin, on y passait en courant quasiment.
Ouais.
C'était plus ou moins un bidonville, c'était pas très fréquentable. Voilà. C'était la période. Alors, dans le contexte, dans la génération où je suis, 62, c'est la fin de la guerre d'Algérie. 68, 69, on commence à avoir. On a eu les rapatriés, mais très peu sur Villeurbanne. C'était pas un quartier où on avait beaucoup de rapatriés. Mais 68, 69, 70, on va avoir les premières familles maghrébines qui vont arriver, donc les premiers enfants qui vont venir dans nos écoles. Mes immigrés à moi, ils étaient italiens et espagnols, ceux qui habitaient les immeubles de la rue Colin. Et c'était très beau d'ailleurs parce que il y avait vraiment une fraternité, et au-delà d'une fraternité, il y avait une collusion des différentes communautés. Il n'y avait aucune idée raciste ou quoi que ce soit. D'abord, on était des enfants, donc on ne sait pas la différence entre un enfant italien ou un enfant du quartier. Et puis voilà, c'était complètement différent. Il n'y avait pas de communauté. Enfin, il y en avait peut-être des communautés, mais elles n'apparaissaient pas. Et puis, il n'y avait pas ces ghettos qui ont été créés après, ou ces pseudo-logements sociaux. Je vais être très dur, hein, pour ceux qui écouteront ça dans les générations futures. Ces pseudo-logements sociaux, où on a cru qu'on allait régler tous les problèmes et où on a entassé, au contraire, les problèmes, la misère. Voilà.
Sur le terrain de la Fessine, il y avait donc des bidonvilles.
Il y avait aussi, oui, alors là je ne suis pas très au fait pour en parler, mais il y avait ce qu'on appelle le shabak, qui veut dire le bled, je crois, en arabe. Mais je ne suis pas très au fait pour en parler, même si j'ai rencontré une des dames qui a vécu à une époque, et qui, alors c'était très beau parce qu'elle m'avait dit de bien prendre soin du parc, parce que c'était son lieu d'enfance. Voilà. Mais non, je ne suis pas très au fait de ce qu'il y avait avant la Fessine. On était quand on est à nos quartiers, hein, quand on habitait les Charpennes, on était aux Charpennes, on avait le marché de la place Wilson, qui est toujours assez réputé. On allait au gratte-ciel, voilà, on allait un petit peu sur le quartier de Dieu Charmette, rue Magenta, rue Jean-Claude Vivant, des choses comme ça. La place de la Bascule.
Il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin.
Place de la Bascule, pour ceux qui connaissent pas, ben ils chercheront ce que c'était.
Expliquez-nous.
C'est la place Charles-Vernu aujourd'hui.
D'accord.
Place de la Bascule, voilà, c'était nos lieux où on faisait nos courses, où on se retrouvait. Et puis la sortie, c'était le parc de la Tête d'Or, effectivement.
Et donc, vous êtes arrivé en 2004 ici, mais ça a été créé en 2002. Vous pouvez nous expliquer un peu comment ça s'est passé, la création du parc, quel était le projet, les propositions, qu'est-ce qui
Difficilement parce que j'étais pas là. Je sais que, alors je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que le maire a vraiment soutenu cette idée d'avoir un parc plutôt qu'une urbanisation encore possible le long du Rhône. Et ça faisait partie de ses projets. L'histoire propre du parc, de sa conception, de sa mise au monde, on va dire, non.
parce que c'est un projet un peu parfois, c'est un parc un peu particulier dans l'agglomération quand même, qui ressemble pas du tout au parc de la Tête d'Or, par exemple, qui est beaucoup plus.
Plus que dans l'agglomération.
Ouais.
Au-delà de l'agglomération, c'est quand même. Alors, Guéric Perret, qui est le concepteur du parc, paysagiste, le disait, c'est quand même. À l'époque, c'était le premier parc naturel urbain en France. Donc, il n'y en avait pas d'autres ailleurs. Après, il y a eu des tentatives et des essais qui ont bien marché de Gilles Clément, notamment sur l'île, sur l'agglomération lilloise. Mais c'était le premier.
C'est quoi ce concept de parc naturel urbain?
C'est le fait d'avoir un parc naturel en plein milieu d'une ville. Parce que là, bon, on a l'impression, quand on est dans le parc, d'être un petit peu en dehors de la ville. Mais si on prend une orthophoto, puis qu'on regarde, on verra que on est au milieu de l'agglomération, quoi. Alors, naturel en plus, parce que des parcs urbains, des grands parcs urbains, le parc de Tête d'Or en est un, mais il y a d'autres exemples encore plus fameux comme Central Park à New York, qui sont des parcs urbains, mais qui ne sont pas naturels, c'est-à-dire où l'homme investit beaucoup dans l'entretien, dans la conception. Ici, c'est avant tout la faune et la flore qui sont les directeurs du parc, on va dire. C'est eux qui nous disent, qui nous conseillent, si on peut dire ainsi, sur ce qu'on doit faire. On fait pour eux, on ne fait pas pour nous. On est dans l'histoire des parcs et jardins, ce qui remonte à très vieux. On pourrait dire que le premier jardin, c'est le jardin d'Éden. Mais dans cette histoire qui remonte très longtemps, hein, jardin suspendu de Babylone, tous les jardins égyptiens, puis si on avance après les jardins florentins pour parler d'Italie, les jardins monastiques qui ont été très très, qui ont emprunt beaucoup de choses sur nos jardins actuels. Ça a toujours été un petit peu pour l'homme une façon de dompter une nature qui lui faisait peur un peu. Surtout Moyen-Âge et Renaissance. Renaissance, les grands jardins qu'on fait, c'est parce que pour nous c'est plus simple que de... Enfin c'est plus simple. On maîtrise. Alors qu'on ne maîtrise pas la nature, mais on n'a pas à la maîtriser non plus d'ailleurs. Donc le jardin de... Les jardins de la Renaissance sont vraiment des jardins où on maîtrise tout. Et jusque dans les années 90, un petit peu avant, peut-être pour certaines villes qui étaient un peu en avance, l'objectif c'était de maîtriser le jardin. Et il a fallu l'arrivée de cette idée venant d'Allemagne, de la conception d'une gestion plus extensive pour avoir une tolérance à la divagation du jardinier. Enfin, à la divagation du jardinier. Il y a des jardiniers qui ont pas mal divagué hein, quand on voit les résultats. Et je ne dis pas ça de façon ironique, hein, parce que divaguer, ça peut être aussi divaguer de façon très extraordinaire. Le nôtre a divagué hein, dans Versailles, hein, et c'est extraordinaire ce qu'il a fait. Il a lâché prise, plutôt, on va dire. Le jardinier commence à lâcher prise dans les années 90. Alors c'est flagrant sur des villes comme Rennes et Orléans, qui sont en France à la pointe de cette fameuse gestion extensive. Ça vient de la culture allemande, où la feuille morte n'est pas sale, où la mauvaise herbe n'est pas une mauvaise herbe. Et petit à petit, ça a vraiment fait son chemin. C'est vrai que sur Villeurbanne, le parc de la Fessine a été un moteur pour tout ça. Mais je pense qu'il y avait aussi un autre besoin de jardin sur Villeurbanne, qui a bien été compris des élus, qui a bien été compris de notre direction. Voilà, et qui a fait qu'on a évolué.
Donc, l'idée, c'était... plutôt que de faire quelque chose qui je sais pas, qui pourrait servir un peu de base de loisir ou qui pourrait être utilisé pour je sais pas, avec des lacs ou des activités à faire, c'est plus, l'idée était plus de préserver un écrin de nature au sein de...
Non, c'est préserver un écrin de nature tout en l'offrant au public. Et donc en veillant à ce que les activités que le public viendra faire à l'intérieur correspondent à l'endroit. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui font du footing, beaucoup de gens qui passent en vélo. On a un parcours de course d'orientation qui marche très très bien. Ça a vraiment été c'est pas moi qui l'ai mis en place, ça c'était un collègue qui était juste avant moi, qui n'est pas resté longtemps, qui avait eu l'idée de cette course d'orientation. Ça c'est une chose qui a vraiment très bien marché, qui marche toujours très bien. Voilà, ce sont les crosses. On a beaucoup de crosses aujourd'hui l'hiver. L'important, c'était que les activités qui se déroulent dans le parc ne portent pas atteinte au milieu naturel. Chite un exemple tout bête, la musique. La musique, c'est beau. Moi, j'adore la musique. Je suis très éclectique dans mes goûts musicaux. Je pars de la musique sacrée pour arriver à Bernard Lavilliers, donc vous voyez que l'éclectisme est là. Eh bien, avoir un orchestre au milieu des bois, ce serait complètement incongru. Parce que le bruit, ce ne serait plus de la musique, ce serait du bruit pour les animaux. Le bruit que ferait l'orchestre dérangerait la faune du parc. Voilà. Donc il faut que ce soit toujours en lien avec le lieu.
Qu'est-ce qu'il y a
d'ailleurs comme animaux? Il y a un peu de tout. Alors, il y a ceux qu'on voit. Bon, il y a tout ce qui est au niveau ornithologique, donc des oiseaux, il y en a pas mal. Bon, ceux qui sont un petit peu repérables assez facilement, c'est notamment les faucons cresserelles qui sont dans le parc. On a quelques mammifères, là on a ce qu'on appelle de la microfaune en mammifères, musaraignes, lérots, des choses comme ça, des renards, du castor.
Et il y a des renards
en particulier. Oui, oui, il y a des renards, oui, bien sûr. Il y a au moins deux couples de renards. Okay. Voilà. On les a vus encore régulièrement, il n'y a pas très longtemps. Du lapin, beaucoup, de garennes. On a longtemps espéré que le renard ferait le régulateur du garenne. Malheureusement, les lapins vont plus vite que le renard. Et puis, je pense que c'est un peu gros pour lui. Du lapro, ça ira, de la musaraigne, mais le lapin adulte, ça fait un peu gros quand même. Voilà, des reptiles, hein, reptiles, amphibiens. Les reptiles, on a de la couleuvre, on en a vu souvent, des lézards. Et puis la plus grande partie de la faune qu'on a et celle qui se voit le moins, c'est tout le monde des insectes. Là, je pense que pour être un peu branché insectes et photo, réunir les deux passions, eh bien, je peux vous dire qu'il y a de quoi voir.
Ouais. Il y a des ruches, non, sur le...
Elles ne sont pas sur le parc, elles sont juste là à côté du bureau. pour produire du miel, c'était un souhait de la mairie aussi d'offrir à des lieux à des apiculteurs. Alors on en a ici, puis il y en a dans le centre-ville aussi, au gratte-ciel. Souvent, quand on parle d'insectes, on parle de ruches, et on parle d'abeilles. C'est important pour les apiculteurs qu'ils aient des lieux pour pouvoir continuer à faire du miel, parce que d'abord, le miel, c'est très bon. C'est très bon au goût et c'est très bon à la santé aussi. Mais l'abeille domestique n'est qu'une infime partie de ce qu'est le monde des insectes et n'est qu'une infime partie de ce qu'est le monde des abeilles. Parce qu'il existe dans le monde 20 000 espèces d'abeilles sauvages et une espèce d'abeille domestique. Donc voilà. Cela dit, l'abeille domestique est un témoin de l'agression de l'homme sur la nature. Et si l'abeille domestique est agressée comme ça... les abeilles sauvages le sont aussi. Donc c'est intéressant de les avoir un peu comme témoins.
Et les plantes, qu'est-ce qu'il y a de particulier ?
Alors on a quelques orchidées, quelques taxons d'orchidées, donc quelques variétés d'orchidées, dont une endémique qui est endémique au Rhône, pas le département, au fleuve Rhône, parce qu'on la trouve à plusieurs endroits le long du Rhône. On a une fougère qui est, elle, protégée, ouais. Qui est la langue de serpent, je vous épargne le nom botanique. La langue de serpent qui est... alors, c'est comme beaucoup d'espèces protégées, souvent, les gens s'attendent à avoir quelque chose de... Non, alors c'est insignifiant. Des fois, il faut la chercher pendant une heure avant de la voir au milieu de l'herbe. Elle est verte, elle n'a rien d'exceptionnel, c'est une fougère. Seulement, elle est protégée. C'est ce qu'il y a permis de classer une bonne partie du parc en zone naturelle d'intérêt écologique, floristique et faunistique. Voilà. Sinon, le reste, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est extraordinaire par son tout et non pas par sa particularité.
Et vous, votre travail alors sur le parc, ça consiste en quoi ? C'est de l'aménagement, de l'entretien ?
Très peu d'aménagement, c'est surtout de la gestion. Alors, la gestion des lieux et la gestion des équipes qui entretiennent le lieu. Donc, mon principal rôle, ça a été d'accompagner l'évolution du parc et d'accompagner les agents qui étaient dedans. Voilà. D'apporter un petit peu, au-delà de mes compétences techniques, d'apporter une certaine philosophie sur le lieu. Voilà.
Et du coup, comment il a évolué le parc depuis que ça fait 15 ans, c'est ça que vous
disiez ? Oui, 13 ans. 13 ans. Alors, en toute modestie, je dirais bien. à mes yeux, il a évolué. Après, chaque regard est différent et chacun y verra une évolution différente. Certains, même peut-être encore aujourd'hui, y voient une contre-évolution. Ils se disent qu'on aurait pu faire autre chose, que ça aurait pu être plus propre. Nous sommes malheureusement marqués par l'hygiénisme en France et M. Haussmann Et donc, il y a encore
bien
des
cacher
gens.
dans la
Ah
poussière qui
oui.
passe.
C'est ce que je vous disais tout à l'heure, les feuilles mortes sont sales, la mauvaise herbe. Je déteste ce terme de mauvaise herbe. Ce que les gens appellent les mauvaises herbes, souvent, ce sont des plantes qui ne devraient pas être là. Donc, on va parler d'indésirables. Et souvent, ce sont des plantes qui ont des vertus extraordinaires. Donc, le problème, c'est qu'on a oublié. Oublié ce que nos anciens savaient sur les plantes et sur leur vertu. On a oublié beaucoup, on a oublié même des techniques. Le monde moderne et ses profits ont fait qu'il fallait aller vers de la rentabilité, et puis surtout qu'il fallait vendre ce qu'on fabriquait. Les stocks de nitrate de la Seconde Guerre mondiale devaient être passés, ils ont été passés dans l'agriculture. Puis les grands groupes chimiques, qui pour certains existaient sous des régimes peu recommandables, je citerai par exemple Bayer, qui vient de racheter Monsanto, mais qui était aussi sous le Troisième Reich, existait déjà. Alors après, on va pas faire un procès à Bayer, hein. Mais on fait en sorte qu'on nous vende des facilités. Donc du chimique, du chimique, du chimique, toujours du chimique pour nous empoisonner. On voit le résultat aujourd'hui sur le monde agricole.
Donc il y a quand même une dimension politique à ce. En tout cas, vous vous percevez comme ça, quoi, comme un acte politique que de poser qu'en ville, on peut avoir
Oui,
un
oui.
lieu.
Pour moi, alors c'est politique. Oui, c'est poser un lieu comme ça en ville, oui. C'est aller à l'encontre d'un système qui court à sa perte et surtout à la perte de l'homme. L'humanité est mal partie. Je suis pourtant un optimiste de nature, mais si l'humanité continue ainsi, elle disparaîtra avant la nature.
Pour revenir un peu au parc de la Fessine et revenir un peu sur la ville urbaine, vous me disiez tout à l'heure que la position de la municipalité, ou en tout cas l'attitude de ville urbaine vis-à-vis des parcs et des jardins, avait changé pendant votre carrière ici. Vous pouvez vous en parler?
Non, je ne dirais pas que ça a changé, je dirais qu'elle a confirmé, quand je suis arrivé, que le parc existait déjà, je dirais que ce qui avait été fait dans le parc a été confirmé. Voilà. C'est-à-dire qu'on a laissé plus de place au végétal et à la faune, plutôt que à vouloir absolument vouloir tout maîtriser, quoi. Oui, ça a évolué. Alors, par exemple. Bon, j'ai essayé d'être moteur, je ne sais pas si je l'ai été, mais dans la gestion extensive, enfin, en tout cas, c'était le rôle que m'a demandé ma directrice. J'ai essayé d'être moteur dans l'abandon des produits chimiques. Je n'emploie plus le terme de produits phytosanitaires, je le cite quand même, parce que c'était une bien belle fumisterie d'employer ce terme, phytosanitaire. Enfin, bref, des produits chimiques, donc. Où on a abandonné donc tout traitement chimique de partout, ça m'a poussé à faire, et ça a été très très intéressant, c'était des très bons moments à faire des recherches pour trouver des palliatifs à toutes ces choses-là. Alors pas sur tout, mais notamment sur les ravageurs qu'il pouvait y avoir sur les végétaux. J'ai trouvé des solutions qui parfois ont marché, d'autres qui ont moins bien marché, mais où on commençait à avoir des semblants de résultats. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le fait qu'on ait réintroduit des auxiliaires de vie, donc des prédateurs des auxiliaires de culture, pas des auxiliaires de vie, des prédateurs, des ravageurs qu'on avait, a fait en sorte qu'on a retrouvé un équilibre. Et c'est ce qui est important, c'est l'équilibre. On n'éliminera jamais le ravageur complètement, mais tant que le prédateur sera là, il va équilibrer les populations, et puis ça marche très bien. Voilà. On a eu des résultats intéressants sur la processionnaire du pain, par exemple, où on a abandonné toute forme de traitement, qui était encore en plus un traitement qui n'était pas vraiment un traitement chimique, puisqu'on traitait avec une bactérie, mais qui était malheureusement une bactérie qui n'était pas, comment dire, spécifique à la processionnaire, qui attaquait tous les lépidoptères et diptères à l'état larvaire à ce moment-là. On est passé sur un système de piégeage, de lutte mécanique avec de l'échenillage et de piégeage avec des phéromones. Et les résultats sont probants parce que dans les cimetières où on a le plus de pins, mais aujourd'hui on dénombre peu de nids de processionnaires au printemps. Enfin, chaque année on dénombre de moins en moins de nids de processionnaires. Donc je pense qu'on a une petite réussite de ce côté-là.
Et vous avez d'autres missions
à l'IRM? En réalité, j'avais été embauché pour m'occuper du parc, ce que je pense avoir fait. Et puis pour créer le service du patrimoine arboré, ce que je sais que j'ai fait aussi, plus ou moins bien, et ça a été en réalité la plus grosse partie de mon travail. Parce que très vite, le parc a pris une espèce de routine, et même si ça n'en est pas une, les agents se sont professionnalisés très vite dans ce parc, ont compris comment il fallait faire. Donc j'avais moins besoin d'apporter mon expertise, alors que sur les arbres, il y en avait quand même pas mal besoin. Donc je me suis beaucoup penché sur les arbres.
Alors, qu'est-ce que c'est
Il a fallu faire recenser tous les arbres de Villeurbanne, les diagnostiquer, et puis gérer tout ça derrière. Donc gérer les tailles quand il y en avait, gérer les abattages quand il y en avait, faire les diagnostics des arbres. Assister les concepteurs quand ils venaient pour planter les arbres et les assister dans le choix des essences pour éviter qu'on ait des choses bizarres qui ne poussent pas. Voilà, et puis ça a été vraiment l'arbre est devenu un frère.
Il y a ce que j'ai compris, quelque chose pas des arbres classés, mais des arbres...
Moi, si je devais classer les arbres, je les classerais tous.
Non,
il n'y a pas d'arbres remarquables. Il n'y a pas d'arbres remarquables. Alors, il y a le ginkgo, oui, qui est, bon, malheureusement, a été étêté il y a quelques années en arrière, donc il a plus sa forme naturelle, mais qui n'est pas trop vilain. Il y a le buis à côté du riz, qui ne paye pas de mine, mais qui est certainement très vieux. C'est pour moi, alors on a un petit débat avec le maire là-dessus, mais pour moi c'est le plus vieil arbre de Villeurbanne, très certainement. Peut-être largement dépassé les 3 siècles, voire peut-être pas loin des 4. Ça pousse très lentement, le buis. Voilà, il y a le platane au milieu de la fessine, que j'honore sur mon invitation de départ à la retraite.
Et du coup, vous êtes allé voir, c'est vous personnellement qui êtes allé recenser tous les arbres de...
Non, alors c'était pas possible parce que c'est un travail énorme. Donc on a fait appel à une entreprise qui a fait le recensement et les premiers diagnostics. Ensuite, on s'est équipé d'un système informatique géographique pour géolocaliser tous nos arbres. Il a fallu mettre tout ça en place, quoi. Et puis après, c'est surtout un rôle de suivi des populations d'arbres. Donc une mise à jour du logiciel en permanence. C'est ça qui a été... c'est pas parce qu'on a fait un diagnostic un jour sur un arbre que ce diagnostic est toujours vrai 3, 4, 5 ans après.
Le diagnostic, c'est quoi? C'est voir s'il est
malade, si... Oui, voilà. Malade, c'est pas trop... Les maladies sur l'arbre sont pas pathogènes, on va dire, ne sont pas excessivement dangereux pour l'arbre. C'est plutôt au niveau diagnostic mécanique, au niveau de la sécurité des lieux. Mais c'est pareil, on n'a pas obligatoirement des... Depuis quelques années, on a des gros coups de vent, donc pour les gens, les arbres sont devenus dangereux. Moi, j'ai une phrase leitmotiv, j'ai l'arbre n'est pas dangereux pour l'homme, par contre, l'inverse, c'est vrai. L'homme est dangereux pour l'arbre.
Ok.